Rencontre œcuménique de Belog du 1er mai 2024, la synodalité, construire ensemble l'église d'aujourd'hui. Dans cette deuxième et dernière partie, nous vous proposons d'entendre l'intervention de Mgr Bernard Dubasque.
Dans le diocèse, quand on me fait intervenir, on me dit « tu auras trois quarts d'heure ». Et puis ça finit à 11h30 et on me donne la parole à 11h25. Ou alors on me fait intervenir à 2h l'après-midi, quand tout le monde dort. Et ça ne va pas changer. Mais je suis content d'être avec vous. Et je vais vous dire pourquoi. Je suis très content que vous ayez parlé les premiers, parce que je ne vais pas du tout dire les mêmes choses. Et donc, on va se compléter. Parce que moi, j'ai compris, je n'ai pas participé à la préparation. Et j'ai plutôt, moi, traité le problème. Mais comment vivez-vous la synodalité dans l'Église catholique aujourd'hui? Vous voyez, donc je n'ai pas fait quelque chose d'historique, même si je vais donner quelques dates, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. J'aurais aimé quand même, au démarrage, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a entrepris et qui est là devant moi, il s'appelle Arnaud, il est professeur, il a été professeur de français, ou je ne sais pas quoi il va le dire, et il m'a dit, mais on se trompe totalement sur le mot synode. Alors j'aimerais, Arnaud, que tu dises à tout le monde, c'est mieux que tu le dises toi plutôt que moi. Alors viens dire ici ce que tu m'as dit au démarrage.
Frères et sœurs, bonjour. Bon, j'étais professeur de grec ancien. Les étymologies, c'est très important. Le synode est un mot grec, synodos, qui signifie assemblée. Et rien d'autre. C'est un mot féminin d'ailleurs, on devrait dire la synode. L'étymologie est très importante, parce qu'en fait, nous avons deux assemblées. Nous avons l'Église et nous avons le synode. L'étymologie de l'Église nous indique que nous sommes appelés, nous sommes convoqués. Kaleo, j'appelle, ek hors d'eux. L'Église nous appelle hors de chez nous. Et synodos, étymologie, tout le monde la connaît, ça veut dire marcher ensemble, mais dans le sens de converger. Et ça évoque une assemblée spontanée. C'est les gens qui ont envie de se rassembler pour prendre des décisions. Alors même si dans le catholicisme, c'est l'évêque qui convoque le synode, en réalité, le synode, théoriquement, il vient du peuple et pas des autorités. Voilà ce que l'étymologie nous apprend.
Alors mes amis, je ne vais pas vous accabler de dates, donc j'ai essayé de faire comment vit la synodalité dans l'Église catholique, aujourd'hui. Je vais évidemment faire à gros traits. Évidemment, je commence mon séminaire en 1964, je le finis en 1974. Donc vous voyez, Concile Vatican II, 63-65. Donc je suis génération Concile Vatican II. Voilà, je dois le dire. Je dis pas que je connais le Concile par cœur, mais enfin, vous trouveriez les actes du Concile, souligné, stabilité. Il se trouve que c'était comme ça, j'aurais été 10 ans plus tard. J'aurais lu la croix pour savoir ce qu'on disait du synode. Bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, en plus, ce que je voudrais dire, c'est que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas du tout de cet esprit-là. Avant le concile, ils ne connaissaient rien, et puis tout d'un coup, on a eu la science infuse, et alors on est beaucoup plus intelligent depuis lors, et on a tout découvert. Je n'en crois rien, je peux vous le dire. Comme on disait, ça vient, il y a des grands courants qui viennent, et le père Congar parlait de l'œcuménisme dans les années 30 et qui annonçait le Concile Vatican II. Donc ce sont des longs cheminements. Mais disons, si vous voulez, pour l'Église catholique, que la façon, le mode synodal, la forme synodale, elle prend quand même naissance au Concile Vatican II. Jusqu'alors, tout à l'heure on a parlé de pyramide, mais c'est comme ça qu'on nous voyait de l'extérieur, c'est comme ça que ça fonctionnait un peu, c'est la pyramide, il y a le pape, il y a les évêques, les prêtres, et puis le peuple de Dieu. Alors il y en a qui disent, ce qui est faux, c'est qu'au Concile Vatican II, on a tourné la pyramide, c'est-à-dire il y a le peuple de Dieu, puis il y a le pape qui est au fond. C'est faux. C'est-à-dire que si je devais faire un dessin, c'est pas un triangle, mais c'est un rond. Dans ce rond, parce que le pape fait partie du peuple de Dieu. Les évêques font partie du peuple de Dieu. La hiérarchie, entre guillemets, fait partie du peuple de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc chacun avec ses charismes, ses compétences, ce pourquoi il est fait. Et donc, ce serait plutôt un cercle où il y a le pape, les... Ça, vous pouvez pas comment, vous pouvez pas vous rendre compte comment ça m'irrite. L'autre jour, nous avons eu les obsèques d'un diacre, d'un jeune diacre, on peut dire, et j'entendais, il n'était que diacre. Ne que. Ça me fout dans des rognes. C'est, on est toujours dans la pyramide. Il n'est pas prêtre, il n'est pas évêque, et puis il n'est pas... voilà. Ne que. Il était pleinement diacre, totalement diacre. Voilà, et il joue son rôle. Ça va ? Bien. Alors l'Église, c'est le peuple de Dieu. Mais je me disais, quand j'ai préparé dimanche, ben, nous avions... je suis le cep, vous êtes les sarments, le père et le vigneron. Et comme Jésus a dit dire ça au début de son ministère, il n'a pas parlé de l'Esprit-Saint parce qu'ils n'ont peut-être pas compris, et la sève, c'est l'Esprit-Saint. Alors, je me permets d'ajouter, la sève, c'est l'Esprit-Saint. Voilà. Et l'Église, alors je me disais, quand j'ai vu le titre « Construire l'Église ensemble aujourd'hui », mais l'Église, est-ce qu'on est d'accord ? J'ai assisté à un débat à l'Institut catholique de Paris, où on faisait une session de l'ISEO, et c'était un amphithéâtre plein, et la parole de Dieu dans nos églises, la lecture de la parole de Dieu. Alors, on avait un débat qui était extraordinaire. Il y avait un pasteur de Lausanne, il y avait le recteur de l'Institut Saint-Serge, et il y avait le père Bourdain, qui était le recteur de l'Institut catholique de Paris. Et alors, à un moment donné, le pasteur dit « Non, sola gratia, sola scriptura, sola fide, l'Écriture est au-dessus de l'Église. » L'Écriture est au-dessus de l'Église. Alors, je vois l'orthodoxe, c'était marrant, mais l'orthodoxe qui dit « Je comprends rien à ce que vous dites, là. Je comprends rien à ce que vous dites. Mais l'Église, pour qui et pour vous, c'est qui ? Pour moi, c'est le corps du Christ, dont le Christ est la tête. Vous êtes en train de me dire que l'Écriture est au-dessus du Christ ? Je comprends rien !» Alors, vous voyez, quand on parle de l'Église, c'est pas la hiérarchie. L'Église, c'est nous tous. L'Église, peuple de Dieu. Voilà. Donc, on a pris conscience, si vous voulez, très forte, que nous sommes tous liés par le baptême. Je me rappelle que l'année de l'Eucharistie, nous avions une grande rencontre des prêtres à Lourdes, avec de la région apostolique, et le cardinal Ricard a fait une conférence. Il dit « Mais est-ce que vous dites aux gens, aux fidèles, qui sont là devant vous le dimanche, qu'ils célèbrent avec vous ?» Qu'ils célèbrent avec vous. Et alors, il nous a dit, mais la prière que nous disons après la consécration, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. C'est pas nous de majesté, mes amis. C'est nous tous. Voilà. Bon, alors, grosso modo, le Concile Vatican II donc, a institué, je dirais, au niveau des évêques, des synodes, multiplicité de synodes. C'est le pape Paul VI, je ne vais pas vous accabler de dates, mais quand même, le 15 septembre 1965, vous voyez, qui dit ceci, « Nous avons la joie de partager avec vous l'annonce que selon le souhait même de ce concile, » il dit c'est le souhait du concile, c'est pas lui qui invente, « va être institué un synode des évêques qui sera constitué d'évêques nommés en majorité par les conférences épiscopales avec notre approbation et qui sera convoqué par le pape selon les besoins de l'Église afin d'apporter ses avis et sa collaboration quand il sera jugé utile au bien-être de l'Église. » Paul VI, 14 septembre 1965, et il a décrété le 15 septembre. Voilà. Et le pape François, le 15 septembre 2018, a amélioré, a fait une réforme des synodes, et en faisant, si vous voulez, ces enquêtes préliminaires. Bon, il y avait le synode, les gens recevaient les documents, comme on appelle les lineamenta, les documents de base, les évêques réfléchissaient, allaient à Rome et tout ça. Et maintenant, le pape veut qu'on en parle partout, dans les paroisses. On en parle partout. Avec un risque énorme. Je me méfie. J'ai envoyé une lettre au synode, à l'équipe synodale là, des Landes, parce qu'on est en synode, là. On le commence. Il faut se méfier, quoi. Alors, vous avez une petite équipe qui réfléchit. Puis vous en avez, par exemple, nous on en a 9 à Aire sur la Dour dans la paroisse. Donc on va faire une synthèse des 9. Puis après on va envoyer la synthèse des 9 au diocèse, qui va faire la synthèse du diocèse. Puis après on va envoyer la synthèse de France. Puis après on va envoyer la synthèse d'Europe, et ce qui arrive à Rome, c'est du pipi de chat. C'est le plus petit dénominateur commun. Ça n'a aucun intérêt. Les idées neuves, les idées ouvertes, elles sont toujours minoritaires. Elles sont toujours minoritaires. Si on demande qu'est-ce que vous voulez de la part des prêtres aujourd'hui, qu'on ait la messe dans tous les villages le dimanche à 11h, même si on n'a plus de prêtres, ça ne fait rien, à 11h, qu'on soit enterré, c'est ça qui va venir. C'est ça qui va venir. C'est pas très neuf. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai dit, méfiez-vous, il peut y avoir dans tout ce qui est repéré, vous existez par vous-même, vous, comité synodal, hein. Prenez ce que vous voyez d'avenir, qui va faire vivre les autres. Bon, enfin, voilà, j'oublie ça comme ça, je m'agace. Là. Bon, et donc en 2018, eh bien, il dit, on va consulter plus large que des évêques, et la suite est arrivée en 2021. Eh bien, il donne le droit de vote aux femmes parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que des hommes et qu'il n'y a qu'eux qui votaient. Et en 2021, ce n'est pas quand même récent, eh bien, tout le monde vote. Je tiens à dire que depuis le début, alors depuis le Concile Vatican II et la fin du Concile Vatican II, il y a eu 16 synodes ordinaires, 3 assemblées générales extraordinaires et 11 assemblées spéciales. Quand on parle de synode ordinaire, je vous dis, le sacerdoce ministériel, alors c'est des trucs qui ont duré un mois, hein. Tous les évêques du monde entier, délégués. Le sacerdoce ministériel, la justice, l'évangélisation dans le monde moderne, la catéchèse dans notre temps, la famille chrétienne, la réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Église, la vocation et la mission des laïcs, la formation des prêtres, la vie consacrée, l'évêque, l'Eucharistie, la parole de Dieu, la nouvelle évangélisation, la mission de la famille, les jeunes, et le dernier, il y aura la deuxième session, puisqu'il a fait sur 2 ans, pour une Église synodale, communion, participation et mission. Alors vous lirez avec intérêt, après Belloc. Hein? 2021-2024, pour une église synodale, communion, participation et mission. Puis vous avez eu des synodes extraordinaires, la coopération entre le Saint-Siège et les conférences épiscopales, l'assemblée des évêques à Lourdes, ça n'existait pas avant le Concile Vatican II, il y avait l'assemblée des cardinaux. Les cardinaux. Bon, et là, maintenant, les évêques se retrouvent. Bon, c'est quand même une instance synodale, entre guillemets. 20e anniversaire de Vatican II, en 1985, et puis les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Voilà les 3 synodes extraordinaires. Et après, il y a eu des synodes spéciaux. La situation pastorale aux Pays-Bas, l'Europe, l'Afrique, le Liban, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, une deuxième fois l'Europe, une deuxième fois l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amazonie. Voilà, des synodes plus spécifiques sur des sujets. Voilà, je vous avais fait le truc, mais... Bon, c'est pour vous dire que ces instances synodales, on a... Alors j'ai calqué, ça fait 30, hein. Donc en 60 ans, ça fait 30, c'est-à-dire il y en a un tous les 2 ans, quoi. Voilà. Alors, ce qui s'est fait au niveau, évidemment, en général, mais je ne sais pas s'il y a un diocèse en France qui n'a pas fait de synode. Diocésain. Alors nous, on est dans le deuxième... Mais dans certains, ils en ont déjà fait 3 ou 4. Voilà. Et donc, je suis toujours très surpris, ayant été vicaire général pendant 15 ans, je sais un peu comment fonctionne la machine. Je n'ai aucun orgueil. Alors, je tiens à dire, quand on m'appelle Monseigneur, je dors beaucoup mieux la nuit suivante. Quand j'ai vu Monseigneur, vous savez que Riposte catholique m'a aligné. Là. J'ai un article sur moi pour être venu aujourd'hui, que c'est lamentable que je vienne dans notre assemblée aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai un article. Je suis aligné, mais bien. Voilà, mais je suis très content d'être là, je vous le dis. Voilà, et donc, nous allons donc... Je pense que je suis le seul prêtre français actuel qui ait vécu les 3 staffs diocésains. National, secrétaire national, et à Rome. Je pense que je suis le seul. Il y en a beaucoup qui en fait 2, mais je pense que je suis le seul prêtre français qui fait les 3 staffs. Donc je vois un peu comment ça fonctionne. Quand même, je sais un peu comment fonctionne l'Église. Écoutez, l'évêque, vous croyez qu'il sort un texte comme ça dans un diocèse, et il fait une première mouture. Il demande au vicaire général, en général, de faire le premier truc. Puis après, il le transforme. Puis après, ça passe au conseil épiscopal. Puis après, ça va au conseil presbytéral. Puis ça va au conseil diocésain de pastoral. Tout le monde fait des changements. On revient au conseil épiscopal. Ça repart des fois au conseil presbytéral. C'est-à-dire que ce qui paraît, c'est la 10e mouture. C'est passé à travers des tamis. C'est pas l'évêque qui, tout d'un coup, le matin, s'est levé et a décidé « Je vais faire un texte sur l'Eucharistie, ou je vais faire un texte, je ne sais pas sur quoi. » Et c'est comme ça que ça se passe à Rome. Quand le pape fait une encyclique, il met en général 2 ou 3 équipes sur le truc. Sur le même sujet, il dit et puis 3 équipes qui travaillent. Puis après, il regarde. Il demande à l'une de travailler davantage, puis après, c'est lui qui fait. Mais c'est un long chemin, vous comprenez. Bon, alors l'évêque, il est entouré. Conseil épiscopal, conseil presbytéral, conseil des curés, conseil diocésain de pastoral, conseil économique, conseil des religieuses, conseil de la solidarité, et je ne les ai pas tous mis. Entouré de conseils. Et le summum, la cerise sur le gâteau. Après le rapport de la SIAZ, ça veut dire, sur les abus sexuels dans l'Église, donc je suis l'animateur dans le diocèse. On a dit aux évêques, écoutez, il faudrait rencontrer vos prêtres quand même plus souvent, peut-être. Bon, je ne sais pas, j'ai l'impression que je le rencontre trop souvent, même trop. Mais bon, il faut le rencontrer. Alors, c'est vrai qu'autrefois, on a eu un excellent évêque que Pierre Moller a connu, qui c'était Monseigneur Mathieu, un basque. Moi, j'ai des prêtres qui m'ont dit, on l'a vu le jour de l'ordination, je ne l'ai plus revu de ma vie de prêtre. Bon, des prêtres, Marcel Lasserre m'a dit ça, par exemple. Aujourd'hui, il nous a donné une feuille, l'évêque, donc il a commencé à rencontrer, il est déjà passé à R, il a fait Agedmont, il a fait Saint-Sevé, il y a une feuille qu'il a fait une grille, alors dans quel esprit tu viens, et puis comment, il y a une question, comment j'exerce mon ministère d'évêque, c'est-à-dire que c'est nous lui disons comment nous voudrions qu'il exerce son ministère, entre celui qui n'a jamais vu son évêque en dehors de l'ordination aujourd'hui, voyez un peu quoi. Bon, vous voyez, c'est un état, la synodalité, c'est un état d'esprit aussi. C'est un état de... Bon. Alors, Arnaud nous a dit que, on dit souvent, synode, ça veut dire chemin, cheminer ensemble, chemin. L'avantage de l'image, du chemin, c'est que c'est Emmaüs. C'est Emmaüs. Quand on dit chemin, ça donne que c'est une entreprise spirituelle. C'est une entreprise spirituelle. C'est André Duplex, qui a été responsable de l'œcuménisme ici, j'aimais beaucoup, un jour, dans un serment qu'il a fait, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit « Moi, je préférerais dire le cheminant. Je suis le cheminant, le véritable, le chemin, la vérité et la vie, et le vivant ». Autrement dit, la vérité, ce n'est pas la vérité au sens de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas une notion philosophique. Je suis le cheminant. Autrement dit, il chemine avec nous. Donc c'est une entreprise spirituelle. Ce n'est pas une nouvelle façon qu'on a trouvé de gouverner, bureaucratique. Bon, ben, on va être un peu plus démocrate. C'est vraiment... La vie spirituelle, c'est se décentrer. Je vais le dire tout à l'heure, il faut écouter. C'est se décentrer. C'est ça la vie spirituelle. Laisser la place au centre, au Christ. Se décentrer. Lui laisser la place. Et donc il est là, il chemine. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence pas à s'imposer, oui, sur le chemin d'Emmaüs. Il commence par dire, mettez-moi à genoux, c'est moi Jésus, ça va. Il les écoute longuement. Et qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas lu Sud-Ouest Dimanche, l'autre, les autres. Tu n'as pas lu Sud-Ouest Dimanche, ce qui s'est passé à Jérusalem. Ah non, j'ai pas lu, expliquez-moi. C'est ça qui se passe. Il leur explique les Écritures, catéchèse. J'aurais bien aimé être là, moi, du début jusqu'à la fin, depuis jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'Eucharistie, la prière, et après, il y a le témoignage, ils partent, ils vont annoncer. De nuit, bien qu'il n'ait pas de pile wonder qui s'use que si l'on s'en sert. Ils partent de nuit, repartir là-bas. Voilà, on a tout, là. Donc c'est une entreprise spirituelle, c'est une attitude spirituelle, c'est une façon, autrement dit, et les fruits, que j'ai combien encore? 3 minutes. Donc il me semble aussi, je voulais faire quelque chose, mais je n'ai pas le temps, on va parler du synode. J'ai peur qu'on parle, on parle. Vous savez, Dalida, parole. on a deux institutions synodales formidables. Ça s'appelle l'équipe animatrice pastorale, l'EAP. Alors vous savez que chez nous, on a passé une après-midi, j'étais au conseil épiscopal, il y en a qui voulaient équipe animatrice pastorale, d'autres qui voulaient équipe animatrice paroissiale. Alors au bout d'une après-midi et de 3 heures de discussion, nous avons dit, eh bien, on mettra, nous, équipe animatrice pastorale paroissiale. Donc nous sommes le seul diocèse à avoir EAPP, pas EAP, EAPP. Ce qui a fait à un de nos professeurs que vous connaissez, qui s'appelle Dominique Bopp, ça a été à un moment donné, il est arrivé au conseil presbytéral suivant avec des œufs, et il a dit à l'évêque, je vous donne les œufs à pépé. On s'est demandé l'évêque comment il allait réagir, mais il l'a bien pris. Je viens porter les œufs à pépé. Voilà, bon. Mais attendez, mes amis, mais quelle instance synodale. Mais quelle instance synodale. L'évêque de Poitiers, Monseigneur, oui, je crois que même les gens qui sont nommés par l'évêque, à l'EAP ou l'EAPP, ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est comme les anciens conseils de fabrique, vous savez, bon, on aide le curé pour les questions matérielles, parce qu'il ne sait pas faire les finances. Bon. Mais ce n'est pas ça, c'est tout. Ils prennent en charge la communauté. Ils prennent en charge. Monseigneur, oui. Nomination officielle, mais c'est comme ça, et chez nous aussi. Nomination officielle par l'évêque. Lettre de mission personnelle. Publication dans le journal officiel. Célébration liturgique. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle une ordination. Alors je dis un terme fort, on dit, c'est au moins un ministère institué. C'est un ministère institué. Monseigneur Rouet, dans la cathédrale de Poitiers, j'appelle madame une telle, il est avec sa crosse, j'appelle madame X pour qu'elle fasse toute l'enseigne, le témoignage de la foi, catéchèse, tout ça, dans le diocèse, dans la paroisse. Et la dame arrive, et elle tire la crosse avec l'évêque. J'appelle monsieur André pour le service de l'homme, et tout ce qui sera, et monsieur arrive, et il tire la crosse. Et puis, ils sont les quatre. Et témoignage de la foi, service de l'homme, prière, célébration, communion. Et les quatre, et les finances. Et les quatre, ils tiennent la truc, et l'évêque leur fait une imposition de la main. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors les gens, ils se disent, je donne un coup de main au curé. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça, mon Dieu. Il y a 10 paroisses dans le diocèse de La Rochelle, il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre, vous entendez ce que vous dites, qui dirige l'EAPP, l'EAP. Mais pour mener les gens au ciel, à la sainteté, pas pour régler les affaires. De savoir s'il y a du papier ou au terre. C'est autre chose. Et le CPP aussi, Conseil Pastoral Paroissial. Parce que les gens, ils ont conscience qu'ils sont là pour et aider par l'Esprit Saint. J'ai fait la retraite à l'abbaye de Maïlis, et il y avait une photo d'une statue qui se trouve au Mesnil Saint-Loup, qui est une abbaye olivétaine, et on a Marie qui tient Jésus, elle a un oiseau, une colombe, qui lui parle à l'oreille. C'est l'Esprit Saint qui lui parle. Elle a Jésus, et elle a l'Esprit qui lui parle. On écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ça, sinon c'est une entreprise spirituelle. Donc les fruits, alors là, j'avais prévu des textes, mais j'ai pas le temps. Donc c'est écouter. Écouter et s'écouter, ce qui est profondément, mes amis, c'est profondément œcuménique. Écouter ce que dit l'autre. Vous savez, un prêtre un jour avait dit ça dans une retraite où j'avais j'aime à la Flatière. Il dit, oh, la prière, moi souvent je dis, Seigneur, écoute, ton serviteur te parle. Alors que c'est dire, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et la prière, bien souvent, c'est écoute, Seigneur, ton serviteur te parle. Non. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est la recherche de la communion, qui n'est pas nécessairement, mais encore une fois, vous voyez, la synthèse, on est là. C'est la communion, le consensus, mais pour le progrès. On peut aller. J'ai une. Premier CPP que je fais à Mont-de-Marsan, 21 personnes, je dis au maire, j'ai un CPP qui est plus fort que votre conseil municipal. Attention, je peux vous dire, ça flinguait. Mais il y avait les gens qui étaient vertébrés. Ce n'était pas des gens qui me disaient tous les matins que j'étais le plus beau et le plus grand. Sinon, il aurait fallu que je les change. Bon, et un petit détail. On dit, ce serait bien, c'était la première année où on était là, si on pouvait faire le mercredi décembre tous ensemble. Donc il y avait 5 anciennes paroisses, Saint-Pierre-du-Mont, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Médard, la Madeleine et Saint-Jean-d'Août. 5, ce serait bien qu'on fasse plutôt que chacun une petite truc le mercredi décembre, bon, qu'on fasse tous ensemble sur Mont-de-Marsan, montrer la nouvelle paroisse. Bon, on est 21. Et puis, comme ce n'était pas des personnes, on vote. Main levée. 17 pour, 4 contre. On a gagné. J'ai dit, attendez, les 4 qui n'ont pas voté pour, là, vous pourriez me dire pourquoi ? C'était le relais de Saint-Médard et c'était le relais de Saint-Pierre-du-Mont. 2 relais sur 5. Il dit, mais nous, on a déjà tout préparé, c'était mi-janvier, mercredi décembre, mi-février. Je leur ai dit, mais on a tout préparé et vous nous foutez tout par terre. Et on a préparé avec les enfants et tout ça et vous nous foutez tout par terre. Et moi, curé, j'ai dit, les 17, ils n'ont pas gagné. C'est les 4 qui ont gagné, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en l'air puisqu'ils ont déjà préparé eux, mais je prends date pour l'année prochaine. L'année prochaine, nous ferons le mercredi décembre. Ça n'a pas été 17 contre 4. Et en même temps, chez nous, tous les synodes, tout ça, c'est toujours consultatif. Tous les conseils sont consultatifs. Donc pas de droit de décision, ce n'est pas décisif. Mais je vois un évêque qui est mal. S'il a l'unanimité dans son diocèse, il fait le contraire. Je pourrais dire, il est mal parti. Hein. Alors je dis toujours, moi, quand j'ai fait les conseils des CPP, j'ai dit, écoutez, en dehors de la morale et de la foi, si vous votez à 90% que Jésus n'est pas fils de Dieu, je ne vous suivrai pas. Si vous votez que Jésus n'est pas fils de Dieu, je ne vous suivrai pas, même si c'est 90% de pour. Et si on décide pour restaurer les finances de la paroisse que nous allons faire du trafic de cannabis avec l'Espagne, je ne vous suivrai pas non plus. Mais par contre, il y a de l'argent et on se pose la question d'acheter une cloche ou d'acheter un petit bus pour promener les enfants, là, je vous suivrai. Vous ferez ce que vous voudrez, mais je vous suivrai. Ah, parce que les gens se disent, puisque ce n'est pas décisif, eh bien, on peut voter n'importe quoi. On peut voter pour Brigitte Bardot, puisque... Bon, voilà, vous avez compris. Alors, j'ai combien ? 5 minutes. 2. J'avais... alors, le père, notre cher père orthodoxe, il a évidemment abordé cette question du primat et de la synodalité dans l'Église. C'est le point central aujourd'hui du dialogue orthodoxe catholique. Mais nous faisons des progrès parce que chacun va vers l'autre ou va vers le Seigneur. Je ne sais pas comment il va dire. Vous savez... J'ai beaucoup aimé, on vous a dit tout à l'heure, j'ai été nommé le soir de mon ordination à la sacristie. J'ai été ordonné il y a 50 ans, le jour de Pentecôte 1974. Arrivé à la sacristie, l'évêque me dit, je ne trouve personne, tu es nommé délégué diocésain. Je vais à la première session nationale, chez les jésuites à Chantilly, j'ai 26 ans, et le suivant, il en a 68 ou 69, c'est-à-dire il y a 40 ans de différence, parce que comme on pactisait avec l'hérésie, protestante, orthodoxe et tout ça, il y avait des... Vous me comprenez ce que je dis, hein, je dis ça avec humour. Et donc il fallait des gens sûrs. Donc c'était des vicaires généraux, c'était des professeurs de séminaire, c'était des chanceliers de l'évêché. Et vous avez un blanc-bec de 26 ans qui arrive. Il est là. Ce qui fait qu'on m'a repéré et je suis allé à Rome après. Au Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens pendant 6 ans, où je me suis occupé des églises orthodoxes orientales. Et si vous ne croyez pas qu'il y a un bon Dieu et une providence, j'ai fait des études de Bible, je suis allé en Allemagne, mais quand je suis arrivé au séminaire de Bayonne, on m'a dit, il y a un très bon professeur d'écriture sainte, il s'appelle le père Garat, donc tu feras autre chose. Alors, et j'ai dit, je vais faire quoi ? Et tu feras de la patrologie. Ah bon, la patrologie, c'est quoi ? Non, j'exagère. Et bien, j'ai fait de la patrologie et je me suis plongé dans les 4e, 5e siècles. Et à Rome, j'arrive, on m'avait envoyé faire une année d'études en Allemagne. J'ai fait 6 mois à Tübingen et 6 mois à Mayence pour comprendre les luthériens. J'arrive à Rome, on me dit non, luthériens, protestants, tout ça, c'est compliqué. Par contre, on n'a rien pour les églises orthodoxes orientales. Ah bon, c'est quoi ça? Ah ben, c'est les Arméniens, les Éthiopiens, les Coptes, les Syriens et les Malankars de l'Inde du Sud. Je n'ai jamais vu ni un Arménien, ni un Copte, ni tout ça. Et je suis bombardé, grand responsable de toutes ces églises. Je m'y suis mis et fantastique. Fantastique. Maintenant, j'ai un poumon oriental. Je n'avais qu'un poumon occidental. Je me suis... Alors, donc, la question cruciale, l'ecclésiologie eucharistique, convergence et différence. Je vous lis simplement, et j'ai fini, une magnifique conférence faite par le cardinal Kurt Koch, qui est le président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. Et il a fait ça en janvier 2024. Il a fait un article dans l'Observatore Romano. Et il dit ceci, je le laisse parler parce qu'il est au courant. La question cruciale qui doit être discutée plus avant dans le dialogue œcuménique afin de rétablir la communion ecclésiale, il parle des orthodoxes, là, et la compréhension différente du ministère de l'évêque de Rome. Mais même pour cette question, on peut partir d'une base commune. En effet, l'orthodoxie considère elle aussi que l'évêque de Rome occupe la première place, mais de service, comme l'avait déjà établi le concile de Nicée. Toutefois, alors que l'orthodoxie reconnaîtrait le pape comme un premier entre les égaux, si l'unité était rétablie, la formule fondamentale du point de vue de l'Église catholique va plus loin, affirmant que le pape est premier et a également des fonctions et des tâches spécifiques, c'est-à-dire de l'unité et de la communion. Un primat pour l'unité et la communion. Pas d'honneur ou d'être supérieur, pas ça. Si nous examinons cette différence de plus près, nous nous apercevons que la dernière question du ministère pétrinien, que derrière la question du ministère pétrinien, se cache également une différence dans l'ecclésiologie, dans la mesure où, dans la structure fondamentale de l'Église antique que les orthodoxes et les catholiques ont préservée, la question du ministère du pape est l'élément qui est encore perçu comme controversé. Cependant, nous trouvons également et surtout dans la question ecclésiologique un fondement largement commun. Plus précisément dans le développement ultérieur d'une ecclésiologie eucharistique, je fais parfaitement écho à ce que dit le Père, qui fut principalement promue par des théologiens russes en exil à Paris après la Première Guerre mondiale et revitalisée par l'Église catholique avec le Concile Vatican II. Dans la théologie catholique, et puis il va y avoir la théologie orthodoxe, cela est démontré par le fait que, contrairement à une ecclésiologie universaliste, qui était celle de l'Église catholique, et qui est toujours unilatéral, qui prévalait dans le passé, le Concile a redécouvert les églises au pluriel, revalorisant d'un point de vue théologique les églises locales, dont chacune est pleinement église, même si elle n'est pas la totalité de l'Église. Cette Église du Christ, c'est une citation, cette Église du Christ est vraiment présente en toutes les légitimes assemblées locales de fidèles, qui, unis à leur pasteur, reçoivent dans le Nouveau Testament, eux aussi, le nom d'Église. L'Église catholique vit donc dans l'interrelation entre la pluralité des églises locales et l'unité de l'Église universelle. Dans l'interprétation catholique, la dimension universelle n'est nullement en opposition avec l'ecclésiologie eucharistique. En effet, l'Église catholique comprend la primauté de l'évêque de Rome, non pas exclusivement ni principalement comme un élément juridique qui serait supérieur, et simplement extérieur à l'ecclésiologie eucharistique, mais plutôt comme une réalité enracinée dans celle-ci. L'unité de l'Église réside profondément dans le fait qu'elle vit de l'unique Eucharistie. Le primat de l'évêque de Rome doit également être compris en référence à ce réseau de communautés eucharistiques qu'est l'Église. En revanche, l'ecclésiologie eucharistique dans le monde orthodoxe est liée à une très forte ecclésiologie de l'Église locale. Par Église, on entend la communauté de foi, qui, rassemblé autour de son évêque, célèbre l'Eucharistie avec lui. C'est pourquoi toute communauté eucharistique est pleinement Église. Bien que l'unité horizontale des églises locales entre elles représente la plénitude et la beauté, elle n'est pas, en ultime instance, constitutive de l'Église. Il en va de même au niveau régional, où, selon le principe de l'autonomie et de l'autocéphalie, les églises sont indépendantes. Et étant donné qu'elles sont étroitement liées à leurs pays respectifs, elles existent en tant qu'Église nationale. C'est certainement là leur force, car elles sont inculturées dans les sociétés dans lesquelles vivent les croyants. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Mgr Emmanuel à Paris. Il nous dit, selon la théologie orthodoxe, qui est cet évêque orthodoxe à Paris, c'est une hérésie totale. C'est une contradiction totale. Il n'y a qu'un seul évêque. Vous avez un évêque orthodoxe qui va à Venise. Première chose qu'il fait à la descente de l'avion, il va voir le patriarche de Venise pour lui dire « je suis là ». Et les catholiques devraient faire ça quand ils vont à Moscou, quand ils vont à Constantinople. Moi, j'ai vécu ça à un congrès de la culture à Moscou, où le cardinal Poupart va là-bas, il s'aperçoit 5 jours après sa présence là-bas qu'il y a peut-être un patriarche qui est là-bas, que ça vaudrait le coup. Donc il essaie de le voir, évidemment, il n'est pas libre. Par contre, le cardinal Tchegaray, ça dit quelque chose ici. Il va à Constantinople, il va à un congrès quelconque, il envoie son discours au patriarche Bartholomé. Il lui dit, voilà, s'il y a quelque chose dans mon discours qui vous gênait, je le supprimerai immédiatement. Et ce serait un plaisir pour moi de venir vous rendre visite. Quand il arrive à la descente de l'avion, il y a 4 évêques orthodoxes. 2 heures après, il est dans le bureau de voilà. Je ferme la parenthèse. Bon. Le risque que courent les églises nationales est toutefois d'être souvent sujettes à de fortes tendances nationalistes. Ces tendances sont également dues au fait que l'orthodoxie, également à la différence de l'église catholique, ne reconnaît pas de séparation entre l'église et l'État, mais voit plutôt une symphonie entre eux. Il s'ensuit que la dimension universelle de l'église est reléguée à l'arrière-plan. Si cependant cette dimension n'est pas soulignée, il est difficile de parvenir à un concept commun du ministère de l'unité, y compris au niveau universel. Voilà. Donc, alors, on a un effort chacun à faire. Et cela soulève la question importante de savoir comment une plus grande convergence théologique peut être atteinte dans l'interprétation du concept de l'Église entre catholiques et orthodoxes. Il va sans dire qu'il ne peut s'agir d'un compromis fondé sur le plus petit dénominateur commun. Au contraire, les forces des deux communautés ecclésiales doivent être mises en dialogue l'une avec l'autre en ce sens. Le groupe de travail orthodoxe catholique Saint-Irénée, dans son document d'étude intitulé « Au service de la communauté », a fourni la ligne directrice suivante. En particulier, les églises doivent s'efforcer d'atteindre un meilleur équilibre entre synodalité et primat à tous les niveaux, à tous les niveaux de la vie ecclésiale, universelle, régionale, locale et paroisse. À travers un renforcement des structures synodales dans l'église catholique, et à travers l'acceptation par l'Église orthodoxe d'un certain primat au sein de la communauté mondiale des Églises. Bon, allez, mais j'arrête. Hein. Alors, comme je vais faire 50 ans d'ordination et que j'ai été nommé responsable de l'œcuménisme, je voudrais faire un cadeau, parce que j'ai demandé à toute ma famille que je ne veux avoir aucun cadeau, et c'est moi qui veux faire des cadeaux. Alors, je vais donner à notre cher Jean-François un livre qui n'a pas été publié, mais que j'ai piqué au Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens. J'en ai piqué 3 exemplaires, qui s'appelle le Tomos Agapis, le livre de la charité. Ce sont les lettres que se sont adressées le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras après la visite à Jérusalem, avant et après. C'est à vous tirer les larmes. C'est incroyable. Incroyable. Ça vaut des lectures pendant la semaine de l'unité au réfectoire. Tomos Agapis.
Vous venez de suivre l'intervention de Mgr Bernard Dubasque lors de la rencontre œcuménique de Belloc du 1er mai 2024 consacrée à la synodalité « Construire ensemble l'Église aujourd'hui ». Les interventions de cette journée œcuménique sont à retrouver sur notre site internet www.lapourdi.net.